La dernière des demandes divines, nous avons déjà examiné le début du Notre Père, que ta volonté soit faite, c'est là où on en est. Voilà. Ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, on a parlé de ça la dernière fois, le règne de Dieu, ce que ça voulait dire. Et on avait fini en disant que c'était suivre ce roi de gloire. Suivre ce roi de gloire partout sur terre, c'est le rôle qui nous est dévolu, d'étendre le règne de Dieu. Pour tous, spécialement le Concile Vatican II rappelle que c'est le rôle des laïcs d'étendre le règne de Dieu dans le monde. C'est comme ça que les laïcs participent de la fonction royale du Christ. Les prêtres participent de la fonction royale du Christ en gouvernant l'Église, et les laïcs participent de la fonction royale du Christ en gouvernant le monde. Voilà. Donc, il vous appartient de remettre le monde en ordre. C'est comme ça que le règne de Dieu doit arriver parmi nous. Et vous voyez, c'est très lié au règne de Dieu. C'est la question maintenant de la volonté. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, on peut comprendre de deux manières que la volonté de Dieu soit faite. On peut le comprendre d'abord qu'elle soit faite par nous ou qu'elle soit faite par lui. Et les deux manières de comprendre cette demande sont justes. Elles sont même complémentaires. Alors, voyons déjà la première, hein, que la volonté de Dieu soit faite par nous. Dieu nous donne des conseils, comme un père très aimant, il nous a laissé des conseils pour tous. Ce sont les commandements de Dieu, les commandements de l'Église, voilà, qui nous donnent des conseils pour notre vie. Et ça, ils sont donnés à tous, de sorte que nous sachions dans quel sens œuvrer pour que la volonté de Dieu arrive. Ne pas voler, ne pas tuer, honorer son père et sa mère, prier Dieu, je cite dans le désordre, mais tous les commandements nous sont donnés pour nous faire connaître la volonté de Dieu sur nous, et donc nous mener à lui. Et puis, à certains, il donne des conseils particuliers, c'est le jeune homme riche dans l'Évangile, qui dit « Que dois-je faire, bon maître, pour avoir la vie éternelle ?» Observez les commandements, lui rappelle le Christ. Tout le monde doit observer les commandements pour avoir la vie éternelle. Et il lui rappelle les commandements. Tout cela, je l'ai fait depuis mon enfance. Alors, c'est dire s'il est bon, ce jeune homme. Alors, le Seigneur va lui donner d'autres conseils. Il va lui donner un autre conseil. Va, vends tout ce que tu as, vends tout ce que tu possèdes et suis-moi. Alors, vous savez que, à ces mots, le jeune homme riche ne désire pas suivre ses conseils, qui pour lui sont trop durs. Mais ce n'est pas pour ça qu'il n'est pas sauvé, hein, puisqu'il suit déjà les commandements. Voilà. Simplement, il ne veut pas suivre ce conseil évangélique, pour lâcher le mot, de la pauvreté, obéissance, chasteté. Il ne peut pas suivre le Christ sur ce chemin qu'il appelle à un don particulier. Voilà. C'était pour vous montrer que les conseils que le Seigneur nous donne sont de deux natures. Il y a les conseils qu'il donne à tous, et puis certains à qui il donne des conseils particuliers, qu'on appelle les conseils évangéliques, qui sont faits pour ceux qui se consacrent à Dieu particulièrement. Et donc, pour nous, suivre ces conseils, c'est la voie de notre bonheur, hein, c'est la voie de notre salut. Et donc, c'est aussi dans Notre Père demander la conformité de notre propre volonté à la volonté divine. Pourquoi ? Parce que c'est le meilleur. C'est-à-dire, on se doute bien que le Seigneur veut le meilleur pour nous. Et pas un père aimant ne va pas se dire, bon, voilà, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, quand on donne des conseils, c'est l'inverse, c'est parce qu'on veut le bien de quelqu'un, on lui donne de bons conseils. Et c'est ce que fait le Seigneur, et nous-mêmes, notre volonté s'attache à connaître le meilleur pour que nous soyons davantage dans la gloire de Dieu. davantage. Hein, c'est le grand mot de saint Ignace, quand il s'agit de mettre en œuvre la volonté. Découvrir la volonté de Dieu et mettre en œuvre la mienne, davantage. Que je réponde davantage à l'appel de Dieu et que ce que je choisisse soit davantage pour sa gloire. Voilà. Donc, la volonté de Dieu que nous désirons connaître, elle va nous permettre de choisir. Il ne s'agit pas de se dire, bon ben, le Seigneur va nous faire connaître, d'ailleurs vous le savez bien, sa volonté en m'envoyant un billet, une lettre, un SMS, un mail, que sais-je, une motion divine, et immédiatement je vais savoir ce qu'il faut faire. Voilà. Ce n'est pas ça, hein, la volonté de Dieu. Alors il peut le faire, je ne veux pas enfermer le bon Dieu dans aucun de mes propos, parce qu'il peut tout faire. Mais ça, ça s'appelle les phénomènes extraordinaires de la vie spirituelle. Parfois, le Seigneur a usé de ce moyen, mais ce n'est pas le mode normal de la connaissance de la volonté de Dieu. Le mode normal de la connaissance de la volonté de Dieu, c'est la prière et le discernement du bien en nous. Voilà. C'est ainsi que je vais connaître la volonté de Dieu. Alors évidemment, pour que je la connaisse vraiment, il faut que je me porte aux moyens qui vont me donner d'être plus proche de sa volonté. Et ce n'est pas difficile, ce sont les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. En demandant plus de foi, plus d'espérance et plus de charité, ben, j'ai plus de chances de découvrir la volonté de Dieu dans ma vie. Vous voyez, ceux qui attendent que la volonté de Dieu tombe comme ça du ciel, ben c'est exactement, si j'ose dire, hein, comme ceux qui étaient au pied de la croix et qui disent au Christ, bon, maintenant, si tu descends de la croix, on va te croire. Eh bien non, Dieu n'a pas voulu faire connaître sa volonté de cette manière-là. Et donc, nous prions, nous cherchons le bien, et nous croyons que nous avons la possibilité, parce que nous sommes capables de Dieu, dit la théologie, capax dei. Hein, on n'est pas des monomes comme ça, perdus. Nous avons été créés capables de Dieu. Et donc, on est capable de choisir Dieu. C'est-à-dire de choisir le choix de Dieu. C'est Mgr Lustiger, ancien cardinal, archevêque de Paris, qui a écrit un livre qui s'appelait justement « Le choix de Dieu », avec beaucoup de finesse. Ça marche dans les deux sens. Le choix de Dieu, c'est ce que Dieu a choisi, et c'est le choix que moi je fais du choix de Dieu. Et c'est comme ça qu'on découvre la volonté de Dieu. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est-à-dire, quand je prie, quand je cherche le meilleur, ce qui va rendre davantage de gloire à Dieu, en mon âme et conscience, avec l'usage de mes facultés intellectuelles, de ce que me dit mon cœur, je choisis, je veux et je désire, dit saint Ignace de Loyola, je veux et je désire ce qui me semble bon. Et c'est ainsi que la volonté de Dieu va se réaliser. Et comment je vais m'en rendre compte? Eh bien, c'est que ça va porter des fruits bons. C'est comme ça que saint Ignace aide à choisir la volonté de Dieu. Hein, parce que si on savait par avance exactement ce qu'il faut faire demain matin, à quelle heure, etc., bon, il n'y a pas besoin de chercher la volonté de Dieu. Il suffirait de la faire, ce n'est pas compliqué. Mais à ce moment-là, on serait plus libre. On serait des gentils automates, voilà, des animaux, quoi, qui rendent gloire à Dieu, quoi qu'ils font. Hein. Le requin, en nageant, rend gloire à Dieu. En mangeant la jambe d'un nageur qui passe, il rend gloire à Dieu. Le requin n'est ni bon ni méchant. Hein. Il agit selon sa nature. Il n'a pas le choix. C'est son instinct. Telle n'est pas notre condition. Notre condition, c'est la liberté des enfants de Dieu. La gloire et la liberté des enfants de Dieu, dit saint Paul. Et donc, il nous appartient de mettre en œuvre notre volonté pour l'accorder à la volonté de Dieu. C'est ça notre liberté profonde. Et notre lettre de noblesse aussi, hein, c'est nos lettres de noblesse. Et donc, quand j'ai choisi la volonté de Dieu, ben, je vois tout de suite ce que ça produit. si ça produit en moi trouble, désespoir, tristesse, c'est peut-être que je me suis trompé. Si au contraire, ça produit la paix et la joie, c'est peut-être que j'ai bien choisi. Voyez. Et dans l'histoire, il n'a pas manqué de motions divines parmi les saints qui parfois se sont trompés. Il y a tel saint qui a pu croire qu'il était appelé à fonder un nouvel ordre religieux, et puis finalement, non. C'est Claudel, je crois, qui, pourtant, il avait eu toutes les recommandations qu'il fallait. Au Vietnam, ça s'appelait Cochinchine à l'époque, il est sur un bateau et il y a une carmélite qui lui dit « Vous devriez entrer au monastère ». Profond, hein, une carmélite, quelqu'un qui parle avec le bon Dieu, hein, très intimement, qui vous dit ça. Alors, Claudel est prudent, il va en parler à son confesseur, qui lui dit « Oui, vous devriez entrer au monastère ». Tous les feux sont au vert. Hein. Et il entre chez des bénédictins, et il est malheureux comme une pierre. Et il comprend que la volonté de Dieu n'est pas ça. Hein. Vous voyez ? Pourtant, il avait toutes les autorités ecclésiales avec lui, qui lui avaient dit « Allez-y ». Et les bénédictins lui ont dit « Mais non, j'ai pas l'impression que vous soyez... Vous êtes très malheureux ici. La joie et la paix sont les signes certains de la volonté de Dieu en nous. » Voilà. Hein, ce sont des critères pour découvrir. Alors évidemment, cette volonté de Dieu, quand je l'appelle, que ta volonté soit faite, vous voyez, c'est pas qu'elle soit faite dehors, à gauche, à droite, et puis, Seigneur, épargnez-moi. Ouais, c'est l'inverse, bien entendu. Hein. C'est la volonté de Dieu, c'est d'abord en moi. Parce que sinon, c'est que je suis un peu menteur, ou un peu hypocrite. Hein. Hein, que soit faite la volonté de Dieu chez vous. Voilà. Et puis, qu'il me laisse tranquille. Vous voyez ? Mais oui, c'est pas possible. La volonté de Dieu, je dois d'abord la commencer en moi. Si je veux que ma prière soit vraie. Hein, même si je prie pour les autres. Et que j'espère que la volonté de Dieu se fasse dans ma famille, auprès de mes amis, auprès des gens que je connais, que je fréquente, auprès des gens qui me détestent, je ne sais pas. Je peux vouloir, effectivement, qu'ils acceptent la volonté de Dieu. Mais ma prière ne peut être vraie que si moi-même, quand je dis que ta volonté soit faite, je m'inclus, et même je commence par moi. Sinon, je ne suis pas en train de faire une prière vraie. Saint Pie X disait, voilà, un chrétien qui s'abaisse, abaisse le monde. Un chrétien qui s'élève, élève le monde. Et donc, je ne sers à rien dans l'Église si moi-même... Je ne veux pas en faire partie, si moi-même je ne m'inclus pas dans cette volonté de Dieu qui est en train de se réaliser. Parce qu'on entend parfois des gens qui critiquent l'Église, ça arrive. Peut-être parfois même dans l'Église, ça arrive. Il y a un père stylite, un moine du désert, qui dit « Mais Seigneur, renouvelle l'Église en commençant par moi ». Il y a comme ça, que c'est bien beau de dire « Soyez honnête, soyez pur, soyez bon, soyez charitable. » Voilà. Et si moi, je suis voleur, prévaricateur, etc., ça n'a aucun intérêt. Ça ne peut pas marcher. Ma prière n'est pas vraie. Hein. Voilà. Donc la volonté de Dieu, ça commence par moi. Et alors, si je fais la volonté de Dieu moi-même, elle va pouvoir se répandre dans le monde. Parce que nous sommes du monde. Alors, on n'est peut-être pas du monde, si on est chrétien. On est dans le monde. En tout cas, ici, on est dans le monde. On n'est pas du monde. On est dans le monde. Et alors, la volonté de Dieu que je réalise en moi, je vais la transporter dans le monde, puisque j'y suis. Vous voyez ? Alors, cette demande à Dieu, c'est le summum de l'expansion de notre liberté. Je dis ça de manière un peu dogmatique, pour que on se mette tout de suite dans la tête que la réalisation de la volonté de Dieu, c'est pas la disparition de ma liberté. Voilà. Parce que c'est comme ça qu'on l'entend souvent, hein, et même nous, même les bons chrétiens, hein, bon, que la volonté de Dieu soit faite, c'est-à-dire que bon, et moi je dis plus rien. Non, c'est pas ça, hein. Le Seigneur ne veut pas ça, il ne veut pas nous transformer en jolies plantes d'appartement qui peuvent rien faire, que, c'est très joli, hein, mais ils sont là, que la volonté de Dieu soit faite, et puis moi, j'abandonne. Non. Alors, je m'abandonne peut-être, hein, mais la volonté de Dieu, elle correspond à ma nature humaine, au plan de Dieu sur moi. Donc, la volonté de Dieu n'est pas une contradiction avec ma propre liberté. C'est le contraire. Ça va lui permettre d'exister vraiment. Ah, il faut s'en persuader. Hein. Je recevais encore hier, hein, des fiancés, et pour la préparation au mariage. Et puis, le fiancé a eu un mot malheureux, très drôle. Enfin, non, c'est pas drôle, mais en fait, c'est très amusant. Il s'est vendu comme un petit cochon à la foire, si vous voulez. Hein? Il dit, ah ben, voilà, c'est important, hein, qu'on parle maintenant des choses, hein, parce que après, quand j'aurai signé, ce sera trop tard. Foutu, quoi. Donc, ça veut dire, quand il aura signé, c'est vrai qu'à la fin du sacrement, on signe sur un registre, hein? Ben, je serai engagé et je serai plus libre. Mais je lui dis, mais vous faites erreur. C'est l'inverse. C'est maintenant que vous n'êtes pas libre parce que vous n'êtes pas donné. Parce que tant qu'on n'a pas fait quelque chose, on n'est pas vraiment libre de l'avoir fait. Je m'explique. Je suis libre d'apprendre le chinois. Je vous le dis parce que je ne sais pas parler chinois. Je suis libre d'apprendre le chinois, c'est vrai. Et c'est vrai que pour que je sois libre, il faut qu'il y ait une indétermination. C'est-à-dire que je peux apprendre le chinois ou je peux apprendre le russe, si je veux. Je fais ce que je veux. Je suis libre. Et c'est vrai, c'est nécessaire qu'il y ait cette liberté, cette possibilité de choix pour que je sois libre. Mais si dans 50 ans, j'ai 46 ans, 50 ans si je suis toujours en vie, près de vie, hein, j'en aurai 96, que j'ai toujours pas appris ni le chinois ni le russe, ben, j'aurais pas été libre d'apprendre le chinois et le russe parce que j'en aurais rien fait de ma liberté. Alors, j'ai pris un exemple qui n'est pas important parce que ce n'est pas essentiel, sachant que je suis ni russe ni chinois et que j'habite en France, ce n'est pas essentiel que je connaisse l'une de ces deux langues. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que ce que je ne choisis pas, sous prétexte que je suis libre, eh bien je ne le mets pas en œuvre, et donc en fait cette liberté, ça reste une liberté potentielle, diraient les métaphysiciens, putative, mais je ne la mets jamais en œuvre. Oui, je peux t'aimer. Voilà, mais je t'aimerai jamais. Ben, oui, bien sûr que si je suis obligé d'aimer, je ne suis pas libre. Donc ça nécessite, pour que je sois vraiment libre, que je mette en œuvre la volonté que j'ai d'aimer. Mais si je ne le fais pas, je ne serai jamais vraiment libre. C'est-à-dire que je n'aurai jamais expérimenté ma liberté, je ne l'aurai jamais mise en œuvre. Et donc, quand nous demandons la volonté de Dieu, puisqu'elle est conforme à notre nature humaine, puisqu'elle est conforme à la vocation que Dieu a sur nous, on ne peut pas avoir peur. On ne peut pas avoir peur de s'aliéner, peur de ne plus être libre, peur je ne sais pas quoi. C'est l'inverse. C'est en se livrant à Dieu, à sa divine volonté, ben, qu'on va être vraiment libre. Et on ne peut pas avoir peur non plus. Parce que le Seigneur, vous voyez, c'est pas. Le Seigneur n'est pas un père sadique ou méchant, ou je sais pas quoi, qui va nous. Hein, qui a prévu pour nous le pire. Voilà. Donc, le Seigneur va nous attend au coin du bois, soit pour nous punir, hein, soit pour nous faire subir d'affreux tourments. Pour son plaisir. Ben, il n'est pas bon alors, hein, c'est pas Dieu. Et c'est pas le cas. Dieu a prévu le meilleur. Et même si ça peut paraître difficile, et ça c'est sûr, hein, si ça peut paraître dur parfois, l'appel que Dieu nous envoie, parfois difficile à comprendre, mais Dieu nous soutient. Saint Augustin disait, Domine dat quod iubes. Donne ce que tu commandes. Ça s'appelle la grâce d'État. C'est vrai qu'on peut, humainement, on peut prendre peur, nous, parfois, devant l'ampleur de la tâche, devant ce qu'il y a à faire. Le Seigneur nous appelle à telle tâche, à telle chose. On se dit, oh là là, je ne vais jamais y arriver. C'est pas, c'est, ça dépasse l'entendement humain. Peut-être, peut-être. Mais n'ayez pas peur. Le Seigneur ne va pas vous demander d'aller, je sais pas, quand il a demandé à Saint François Xavier, par la voix de Saint Ignace, son supérieur, d'aller en Chine, c'est un voyage complètement fou. Hein. À l'époque, 3 mois de bateau, une chance sur 3 déjà de ne pas arriver, hein, parce que naufrage en mer oblige. Saint Ignace est bien gentil en demandant de partir aux Indes. D'abord, on lui a demandé de partir aux Indes, pardon, excusez-moi. Saint-François Xavier, il voulait déjà arriver jusqu'au Japon. Mais, d'ailleurs, il est mort sans, aux portes du Japon. Et donc, bah, vas-y, voilà. Appel de Dieu à partir, c'est complètement fou. Mais oui, mais c'est la volonté de Dieu, et Dieu aide. Et Dieu a permis que Saint-François Xavier évangélise une partie de l'Asie, à lui tout seul. Tout ça parce qu'il a fait confiance à la volonté de Dieu et qu'il a, en son âme et conscience, il a pensé, en discernant le bien, que c'était le meilleur pour Dieu. Ben, il ne s'est pas trompé, parce que Dieu lui a donné de réaliser ce qui semblait complètement impossible. Voilà. Donc, je cite souvent Mère Teresa, mais je vais la citer encore. C'est complètement fou. Elle est appelée dans son cœur à être religieuse. Ben, c'est déjà pas mal. Alors, elle est religieuse, elle est envoyée à Calcutta. Elle s'occupe d'une école. Très bien. Et puis, elle ressent dans son cœur un autre appel. Un appel dans l'appel, comme elle dit. Un appel à aller servir dans les bidonvilles. Aller, voilà. Alors, elle en parle à sa supérieure qui lui dit « c'est pas possible, parce que nous, on est enseignantes et on ne peut pas sortir de notre couvent. » Mais, une sainte supérieure qui lui dit, si vraiment vous êtes sûr que c'est la volonté de Dieu, ben, il faut sortir, hein. Il faut quitter la communauté, et il faut y aller. Hein. Ben, c'est ce qu'elle fait. C'est complètement fou. Hein. Elle part, les mains dans les poches, voilà. Et elle commence toute seule. Ah non, c'était pas toute seule, il y en a 2 qui la suivent au début. 2 femmes. Ben, aujourd'hui, les sœurs de Mère Teresa, je ne veux pas dire des bêtises, je ne sais pas combien elles sont, mais des milliers, de par le monde. Des centaines de mouroirs, d'orphelinats, d'hôpitaux, voilà, de visites aux pauvres, des millions et des millions sûrement. Ah ben oui, mais si ça avait été la petite volonté de sœur Teresa, elle serait restée dans son couvent, ce qui était déjà pas mal. Hein. Elle avait déjà donné sa vie au bon Dieu, elle était déjà, voilà, déjà pas mal. Oui, mais la volonté de Dieu ne peut pas nous faire peur, parce que Dieu, il a un plan et il va le soutenir. Avec nous. Donc c'est oui, c'est ça qu'il faut répondre, hein, à la volonté de Dieu. C'est oui. Voilà. C'est oui, 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 oui. Et puis alors que votre oui soit oui, que votre non soit non, hein, parce qu'on dit oui à Dieu, on dit non au péché, hein, et tout ce que vous rajoutez vient du mauvais. Hein. C'est un vrai oui. Alors je ne veux pas faire d'angélisme, c'est un oui qui se heurte à parfois une volonté de non en nous. Ça existe. Ben oui, ça s'appelle le péché. Le péché qui nous empêche d'aller vraiment, hein, de nous convertir, c'est-à-dire de nous tourner conversio a Deo, nous tourner vers Dieu, et nous détourner aversio ad creaturam des choses créées. Mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que il y a en nous la trace du péché, il y a les mauvaises habitudes. Les tentations, les tentations extérieures qui viennent du mauvais, hein, du démon. On l'a médité la semaine dernière, hein, dans les tentations du Christ, enfin, le premier dimanche, au désert. Le Seigneur
sans atteindre sa sainteté, a subi les tentations où il était proposé. Elles n'ont pas pénétré dans son cœur, parce que contrairement à nous, il pouvait subir les tentations extérieures, mais il n'avait pas de tentation intérieure, parce qu'il n'avait pas la concupiscence, hein, cette faiblesse de notre être qui nous porte au péché. Hein. Oui, les tentations, toutes les tentations, voilà, qui sont des obstacles à la volonté de Dieu. On le voit bien dans les tentations au désert du Christ. Tu prétends servir le Seigneur, le prier, mais mange plutôt. Non, le Seigneur a dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Et en plus, il le fait. Ah bon, c'est bien ta volonté d'être saint, c'est super. Hein, et bien moi, je te montre, hein, je t'emmène sur le sommet du temple, et puis montre-moi comment le Seigneur t'aime, et puis va te protéger. Parce que le démon connaît bien l'Écriture aussi, hein. Il est théologien, le démon. Je ne dis pas que tous les théologiens sont des démons, attention. Mais le démon est théologien, puisqu'il cite le psaume 91. Vas-y, le Seigneur va te protéger pour que tu ne heurtes les pierres, etc. Il enverra ses anges pour te protéger. Voilà. Et tu ne mettras pas le Seigneur ton Dieu à l'épreuve. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous tentions Dieu. Et puis, le démon qui ne démord pas facilement, on le sait bien dans nos vies, malheureusement, hein, il s'acharne. C'est un acharné. Hein, c'est-à-dire qu'il est tourné vers la chair. Il est acharné. C'est normal. Il n'a plus que ça. Eh bien, il se permet quand même de monter le Christ, de lui montrer toute la gloire du monde. Il a un grand pouvoir, ce prince de ce monde. C'est temporaire, hein, mais quand même. Et alors voilà, tout ça, je te le donnerai. Si tu te détournes de la volonté de Dieu, tu adoreras Dieu seul. Vous voyez pourquoi les commandements sont une aide, hein ? Le Seigneur lui répond avec le Deutéronome au diable. Il lui répond avec l'Écriture et lui dit « Non, tu adoreras que Dieu. » Alors, ce n'est pas possible. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que je sais que la volonté de Dieu se dit dans l'Écriture. Donc, ce n'est pas possible. Voilà comment le Christ vainc les tentations, hein ? Et que sa volonté peut être accordée à celle de Dieu parfaitement, son Père, parce que il suit cette volonté. Alors, nous avons, nous, contrairement au Christ, on peut subir déjà les tentations extérieures, hein, du diable, mais nous avons, nous, une résonance intérieure qui s'appelle la concupiscence. Alors, pas m'attarder, mais c'est la concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux. Et puis la plus intime et la pire, c'est la concupiscence de l'orgueil. C'est la plus dure, hein, à débusquer chez nous. Et donc, ayons confiance que chercher la volonté de Dieu, c'est entrer dans le plan de Dieu. C'est ça, le dessein divin d'amour du Seigneur. C'est ça sa volonté. C'est pas la peine de chercher midi à 14 heures. Dieu veut que l'homme soit sauvé. Pas compliqué. Et donc, on n'a plus qu'à... Il n'y a plus qu'à s'y coller, quoi. Puisque c'est ça qui va être notre bonheur. Et le serpent infernal, dès le début à la création, insuffle le doute. Mais non, vous n'allez pas mourir, vous serez comme des dieux. Mais ce que je veux, c'est la volonté de Dieu comme Dieu le veut. Avec les commandements de Dieu. Et pas selon une petite erreur qui consiste à croire que Dieu a essayé de me tromper. Dieu n'est pas bon. Il veut vous tenir un peu en esclavage. Vous voyez, c'est tellement actuel, ce mensonge du diable. Libérez-vous. Libérez-vous des commandements et tout ça. Vivez. Vous voyez ? Mais en fait, c'est là où vous allez mourir. Le diable est un menteur. Alors, le dernier point que je voudrais évoquer, je vais essayer, c'est que cette volonté de Dieu, parfois, nous est très obscurément connue. Et qu'il semble qu'elle passe par un mal. Alors là, ça devient épineux. Parce que jusqu'à présent, ça coulait bien de source, tout ce que je vous racontais, à peu près. Mais, voilà. Est-ce que Dieu veut le mal? Parce que ça arrive. Il n'y a pas que des enfants ici. Il n'y a que les enfants qui croient que tout va aller toujours tout bien. Et on sait que dans la vie, peut arriver des choses dures, parfois même terribles. Une épreuve. Alors, mettons-nous bien dans la tête tout de suite, Dieu ne veut pas le mal. Dieu ne peut pas vouloir le mal, à défaut de se contredire lui-même. Dieu n'a pas voulu Judas. Vous avez des gens insidieux, théologiens encore, mais là, des théologiens un peu démons, sûrement, qui disent « Ah oui, mais Judas, voyez bien, c'était prévu, cette histoire. » Puisque Dieu le savait, exprès, il a choisi Judas pour qu'il le trompe. Voyez. C'est-à-dire que vous faites de Dieu quelqu'un d'ignoble. C'est-à-dire qui prévoit, c'est ce que Calvin n'a pas compris, qui prévoit qu'il y en a un qui va être damné. Alors, je vais choisir. Alors, bon, il m'en faut un. Alors, j'ose pas trop balader mon doigt. Là, on a besoin d'un damné. Alors, à qui le tour? Vous voyez? Et c'est horrible. Dieu a choisi, dans le Christ, il a choisi Judas pour qu'il se sauve, qu'il devienne une colonne de l'Église. Alors, évidemment, ce qui nous perturbe beaucoup, c'est que pourtant, il savait que Judas le livrerait. Depuis le début. Est-ce que Dieu sait tout? Mais ça, c'est parce que on a du mal, je vous l'ai déjà dit, à sortir du temps. Parce que nous sommes dans le temps. Mais Dieu n'est pas dans le temps. Pour Dieu, la fin du monde, vous voyez, c'est déjà... Il sait tout, déjà. Et pourtant, cela ne supprime pas la liberté qui est la nôtre de coopérer à l'avènement de ce règne. Vous voyez, quand vous donnez à un enfant des consignes pour faire du vélo, par exemple, à un tout petit, à qui vous venez d'enlever la troisième roue, par exemple, vous lui donnez plein de consignes, disant... voilà. Et quand vous le voyez partir comme ça, vous dites, là, il va se casser la figure. Mais à aucun moment, vous n'avez voulu qu'il tombe, que vous avez voulu qu'il se fasse du mal. Vous avez tout fait jusqu'au bout pour qu'il y arrive. Et alors, il faut qu'il suive bien vos consignes. Qu'il ne retourne pas la tête, qu'il... je sais pas quoi. Enfin, qu'il fasse attention à ce qu'il fait. À aucun moment, vous ne voulez qu'il tombe. Mais si, en le voyant partir, vous dites, là, commis trémousse sur son vélo, il va tomber. Alors, évidemment, comme quelqu'un de prévenant, vous allez immédiatement courir pour le ramasser ou l'attraper même avant qu'il ne tombe. Ça va encore pas trop vite au tout début. Mais Dieu non plus ne veut pas le mal. C'est une analogie que je viens de faire, parce que c'est pas une connaissance certaine que nous avons. C'est une connaissance probable. Mais Dieu, il a une connaissance certaine. Mais donc, Dieu permet parfois dans nos vies que survienne un mal. Et c'est toujours pour le bien. Dieu nous éprouve parfois, ou permet que nous soyons éprouvés, plus exactement. Mais il va nous réserver un bien. Quand il permet que saint Paul soit fouetté, lapidé, envoyé par-dessus les murailles de Jérusalem, qu'il fasse naufrage, qu'il soit arrêté, enchaîné. C'est pas drôle, la vie de saint Paul. Et puis finalement, décapité. Eh bien, Dieu a permis qu'il soit vraiment une colonne de l'Église, une fondation, un roc. Aujourd'hui encore, on va en pèlerinage sur le tombeau de saint Paul, à Rome. Dieu permet. Alors, du coup, voyez-vous, les grands saints ont développé cette idée que il nous faut nous trouver dans ce qu'on appelle une sainte indifférence. Alors, ça, c'est un petit peu bizarre, ça. Sainte indifférence, c'est-à-dire, nous attendons le bon plaisir de Dieu, et par avance, nous acceptons sa volonté. Alors attention, il y a une pente dangereuse à ce que je dis, C'est une espèce de passivité pure où alors la volonté de Dieu va se faire, alors là, moi je ne fais plus rien, je laisse faire. C'est pas ça, hein, la sainte indifférence. La sainte indifférence, c'est l'état de prière dans lequel on cherche à savoir parfaitement quelle est la volonté de Dieu. C'est saint Ignace qui parle beaucoup de la sainte indifférence. Pour se dire, mais voilà, essayez hein, de vous libérer de votre cœur, de vos réflexions, pour vous placer devant Dieu en disant tout ce que tu veux, Seigneur, puisque tu m'aimes. Hein, j'ai confiance. Hein, on peut, vous savez, quand on fait des jeux, qu'on ferme les yeux, ben, ces jeux-là, on les fait qu'avec les gens qui nous aiment hein, et qu'on connaît bien, évidemment. On ne va pas jouer à ces jeux-là quand vous dites ferme les yeux. Voilà. Vous ne faites pas ça n'importe où. Vous faites ça en famille, vous faites ça avec les gens qui vous aiment. Parce que vous vous doutez bien qu'on va vous faire une petite blague, mais on voilà, on va pas vous pousser dans le vide, on va pas vous donner un poison ou je sais pas quoi. Hein. Et donc, cet état d'indifférence, hein, je ferme les yeux, je suis prêt à tout. C'est une marque de confiance terrible hein, qui nous dispose à découvrir mieux ce que Dieu veut. Alors saint Ignace, il va fort, parce que de toute façon, il va toujours très fort, hein, il dit que nous ne voulions pas plus la pauvreté que la richesse, la santé que la maladie, une vie courte qu'une vie longue. Il ne s'agit pas de devenir désincarné, de ne plus avoir de sentiments, etc. Pas du tout, hein. Puisqu'on ne veut que le bien. Mais de découvrir la volonté de Dieu. Parce que, je vais l'expliquer en finissant justement sur le Christ. Il faut toujours repartir du Christ, alors comme ça sera ma fin, la fin de mon propos. Dans le Christ, on nous montre qu'il y a ces deux volontés, comme dit saint Thomas. Il ne veut pas le mal, le Christ, hein, c'est pas possible. Et au jardin de Gethsémani, il dit clairement à son père, si tu peux, que ce calice s'éloigne de moi. Mais non pas ma volonté, mais la tienne. Et oui, heureusement que le Christ a dit ça. Hein. Parce que dans sa volonté de nature, celle qui correspond à sa nature humaine, à ses sens, ben, il ne veut pas souffrir. Hein. C'est un mal. Et heureusement, il n'est pas masochiste. Hein. Il ne veut pas le mal, il ne veut pas souffrir. Mais dans sa volonté de liberté, qui est pleine et entière, il veut ce que veut son père. Parce que ce qu'il veut, c'est le salut du genre humain. Et donc, il veut souffrir sa passion, garde un œil ouvert, dit la tradition, hein, mise en œuvre dans le film de Mel Gibson, où, très film très précis, où, malgré les outrages, malgré les... Voilà, c'est un peu dur à voir. Hein, on voit que le Christ garde un œil ouvert, la connaissance de ce qu'il veut, le salut du genre humain, à travers cette souffrance. Il porte les péchés du monde. Et donc, cette apparente contradiction dans la volonté du Christ, dans ces deux volontés, hein, nous fait comprendre que Jésus-Christ est vraiment Dieu et vraiment homme. Elle nous fait comprendre aussi, c'est peut-être encore plus important pour mon propos, que nous pouvons vouloir ce que Dieu ne veut pas nous donner. Parce que, du moment que c'est bon. Voilà. Seigneur, donne-moi le don des langues pour que je puisse aller évangéliser partout. Voilà. Mais peut-être que le Seigneur ne va pas me donner le don des... Pourtant c'est bon, hein. Et en plus je suis plein de bonnes intentions, c'est pour aller évangéliser. Demande parfaite, hein. Mais peut-être que Dieu n'a pas prévu ça. Et donc, vous voyez, le Christ, en ne voulant pas la souffrance, mais en voulant la volonté de Dieu, qui ne veut pas qu'il ne souffre pas, et donc qui veut qu'il souffre, eh bien, ça nous dit que nous aussi, il peut y avoir un décalage. Jésus a vécu cette tragédie humaine dans sa vie. Ce n'est pas une contradiction, en aucun cas, c'est un déchirement. C'est ça la nature humaine. je fais le bien, je fais le mal que je ne veux pas, et je ne fais pas le bien que je veux faire, dit saint Paul. C'est la tragédie humaine. Nous sommes écartelés dans notre corps, dans notre être. Et c'est ce que le Christ a vécu, ce déchirement. En aucun cas, le Christ est incohérent. Il est pleinement cohérent avec la volonté de Dieu qui est en lui. Alors voilà, il faut répondre oui. Alors comme il faut vraiment répondre oui, on peut se mettre à l'école de Marie, hein, puisque tout à l'heure on a récité l'Angélus, on a rappelé que Marie a dit oui. Voilà. Un oui réfléchi, un oui questionné, comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme. Mais qu'il me soit fait selon votre parole, selon la volonté de Dieu. Alors, Marie, elle n'a cessé de dire oui, hein. Oui à l'Annonciation, oui à la crèche, oui à la circoncision quand on lui annonce qu'un glaive lui transpercera le cœur. Et oui jusqu'à la croix, parce qu'elle est toujours là, debout. Donc Marie, c'est notre modèle, c'est Notre-Dame du oui. Hein. Ça existe d'ailleurs, Notre-Dame du oui comme vocable de Marie. Et Notre-Dame du oui, c'est pas fini puisque à la Pentecôte, elle était là encore, hein, elle a dit oui à la mission que le Christ lui a confiée au pied de la croix, d'accompagner l'Église. Elle lui a confié saint Jean, le seul représentant de l'Église hiérarchique, le seul représentant des apôtres au pied de la croix. Et pas mal de femmes au pied de la croix. Il y a eu quelques hommes, mais il n'y avait qu'un seul apôtre. Et c'est à Marie qu'on l'a confié. Et à qui on a confié Marie ? Eh bien, ce oui, il est continué encore aujourd'hui. Marie nous aide dans l'Église à dire oui. Oui à l'Église, oui au plan de Dieu, oui à la volonté de Dieu en moi. Que Marie, encore aujourd'hui, intercède pour nous auprès de Dieu, à qui elle a dit oui, pour que nous puissions connaître la volonté de Dieu et que nous voulions répondre oui. Amen. Thank you.